Aujourd'hui, à Rencontre, une féministe qui s'attaque à la pilule, Edmonde Morin. Edmonde Morin a 37 ans et n'a pas que des amis. Cette féministe ne se gêne pas pour affirmer que la pilule et le stérilet sont destructeurs de la femme. Pourtant, cette ancienne militante marxiste est bien loin de se rallier à une doctrine religieuse. Elle a publié un ouvrage retentissant pour expliquer ses idées, « La rouge différence ou les rythmes de la femme » aux éditions du Seuil. Selon Edmonde Morin, la pilule est un facilitateur de démission et une blessure de la personne. Elle croit que la vraie liberté du couple ne dépend pas de la pilule. Edmonde Morin est interviewé par Marcel Brisebois.
Edmonde Morin, votre livre « La rouge différence ou les rythmes de la femme » peut apparaître comme une réhabilitation de la fécondité, une réhabilitation de la fécondité qui, aux oreilles de certains, peut apparaître assez similaire au discours ecclésiastique. Comment réagissez-vous à une telle affirmation ?
Avec un peu de surprise, parce que je n'ai jamais voulu prendre leur point de vue là-dessus, et je me retrouve en effet sur certains points d'accord avec l'Église, mais je suis d'accord sur ce point essentiel, qui s'il y a un respect de la personne, on doit le rechercher. Et comme il se trouve qu'ils ont gardé assez constamment cette optique, on se trouve là jumelé sur le respect de la personne. Mais leurs critères et les miens ont bien des divergences, enfin vraiment... Je n'ai pas travaillé à partir des mêmes critères de base.
Mmh. Vous avez écrit votre ouvrage à partir d'une enquête journalistique sur les rythmes de la femme, c'est ça ?
Oui, il y a une enquête journalistique qui est sur la menstruation notamment. Mmh. Il y a toute une série d'interviews assez longues, une trentaine je crois. Ça s'est passé en plusieurs temps. Le premier temps, ça a été donc cette description des tabous, des préjugés, des façons de faire et des façons de dire sur les règles. Alors ça, je me suis beaucoup appuyée sur les
enquêtes que vous avez faites aussi bien auprès des hommes que des femmes.
Je l'ai faite aussi bien auprès des hommes que des femmes et je l'ai faite de façon totalement subjective. C'est-à-dire que je n'ai pas voulu avoir un échantillon social trié, un échantillon sociologique avec des critères scientifiques. J'ai pensé que ça ne m'intéressait pas. Ce qui m'intéressait, c'était comme ça, des proximités, des divergences, des convergences, des conversations. Et je pensais que je sortirais beaucoup plus de choses de ces proximités de ma vie privée. Parce que je pense qu'à vouloir faire parler tout le monde, à mettre sur un plan égal tous les discours, on n'arrive à rien qu'à une soupe. Alors je pense, moi, qu'en étant subjective, je frapperais plus fort.
Mais quelle était la question que vous vous posiez profondément en faisant cette enquête ? Quel était le problème pour vous ?
Il y en avait plusieurs, parce qu'il y a trois livres en un. Il y a celui qui se pose pour la contraception. C'était d'abord celui du silence. Silence sur le sang, silence sur la fécondité, silence sur la maternité. Des discours qui n'étaient pas celui de la femme telle qu'elle vit la situation. Et il y avait un discours sur cette situation, et il n'y avait pas de discours intériorisé et vraiment franc. Et c'est ce que j'ai essayé de lever le silence sur ces discours. Le silence sur le sang, le silence sur la fécondité et le silence sur ce qu'on fait subir aux femmes quand elles accouchent. Et c'est parti d'une révolte. J'avais pas envie de dire les choses pour les dire. J'avais envie de savoir pourquoi il y avait secret. Et si c'était bien de conserver ce secret ou de le reconduire. Donc... Je me suis appuyée sur mes amis, sur mes interviews, et moi j'ai pu comme ça nouer le fil d'un discours. Mmh. Mais un de mes fantasmes, c'est en effet que si un homme refusait mon discours, il se trouvait que j'étais militante toute une époque, j'avais du mal
militante,
à me faire...
Militante, qu'est-ce que vous voulez dire ?
Dans des cercles qui intervenaient sur l'immigration, qui intervenaient sur différentes injustices en France, etc.
Vous faisiez de l'activisme sociopolitique.
Absolument. Et proche des maoïstes exactement, sans en être. J'étais donc comme une compagne de route qui, à certains moments, intervient quand elle pense que c'est bien. Et je me suis rendu compte à cette époque que pour qu'un discours de femme soit entendu, il fallait vraiment qu'il soit ou transcendant, ou répété 20 fois, ou repris par un type. Et ça, j'avais ce fantasme qu'à ce moment-là, mon visage se balafrait de sang, et que c'était parce que j'étais une femme que mon discours n'était pas entendu. Bon, et ça, c'était une motivation qui m'a suivie tout au long de mes interviews. Je me suis dit, ça, c'est quelque chose d'insupportable. Il faut que j'arrive à surmonter ça. Il faut que ce discours des femmes soit entendu. Voilà. Bon, et c'était très lié, ce silence, et ce silence qu'on m'imposait sur mon discours. Et cet autre silence répondait à un silence du corps. Et bon, ça vous semble peut-être contradictoire, noir, tout confus, mais moi, je le sentais en écrivant, c'était ça. Et en même temps, j'étais un peu révoltée par les femmes, parce que je me disais, bon, ok, elles saignent tous les mois, mais elles voudraient être des mecs, et elles voudraient quand même avoir leurs enfants, et elles voudraient tout. Alors, il y a un moment donné, on doit s'arrêter. On doit dire, bon, ben, en effet, je porte cette charge-là, et puis je la porte avec une relative bonne humeur. Alors qu'on entend très souvent, oh, mais vivement que ce soit fini, oh, mais c'est une charge, oh, mais c'est un ennui, etc.
Bon. Alors, justement, vous m'amenez sur le problème pour lequel j'ai abordé l'interview, le problème de la fécondité. Et vous reprochez à notre société, la société actuelle, d'avoir séparé sexualité et fécondité. D'avoir rendu même, vous dites, la sexualité honteuse, la fécondité honteuse.
Oui. Je pense que fécondité et sexualité ont été assez tôt séparées, puisque la contraception, ça remonte à l'Antiquité.
Oui.
Qu'on le fasse par l'abstinence, par l'infanticide, l'exposition, etc. Bon, il y a eu une contraception.
Oui, mais il reste que, jusqu'à tout récemment encore, le discours officiel, le discours dominant, oui, c'était que la sexualité était en vue de, trouvait sa finalité dans la fécondité, dans la procréation. Alors aujourd'hui, il y a cette dissociation, et cette dissociation est apparue quand même comme un pas en avant, permettant par exemple à la vie sexuelle de ne plus porter ce poids de la fécondité. Absolument. Et au contraire de permettre l'accès au plaisir et à l'épanouissement des êtres. Et ça vous apparaît comme dangereux, comme néfaste?
Moi, ce qui m'apparaît, c'est qu'on n'a pas seulement séparé. Avant, c'était la fécondité, la peur de la fécondité qui prenait toute la place. Et maintenant, c'est la sexualité qui prend toute la place. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de temps pour la fécondité. Je ne demande pas qu'on se préoccupe à tout moment de la fécondité. Je demande qu'on lui rende sa place. Je dis que la pilule et le stérilet mettent, en protégeant totalement la femme de sa fécondité, ne la mettent plus sous le signe de la fécondité du tout, à aucun moment, même un petit moment, mais la mettent tout le temps sous le signe de la sexualité.
Et d'une servilité à l'égard du désir de l'homme.
Absolument.
Mais c'est ce que vous dites.
Oui, c'est le corollaire. Pour moi, c'est le corollaire. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de moment où on peut s'absenter et dire, bon, ne me touche pas, ce moment-là, je me le réserve à moi. Peu de femmes ont cette force de dire, ne me touche pas, je n'ai pas de désir. Autrefois, on pouvait dire, je suis féconde, bon, j'ai mes règles. Il y avait des moments tabous comme ça pour différentes raisons. Maintenant, une femme sous pilule ou sous stérilet, elle n'a pas ces excuses-là. Et souvent, elle n'a pas non plus la force de dire, non, ne me touche pas. Parce que si elle dit ne me touche pas, l'homme en face entend ne me touche plus. Il n'y a pas un moment où on peut s'absenter sans donner d'explication, finalement. S'absenter, se retirer en soi-même. Et je ne dis pas que la pilule et le stérilet sont uniquement en cause. Je dis que ce sont des facilitateurs de démission. C'est différent.
Est-ce que vous prôneriez, comme par exemple le fond, parce que je posais un peu la question au début, le discours ecclésiastique, le discours chrétien, le discours catholique plus précisément, est-ce que vous prôneriez la méthode naturelle, comme disent les théologiens, les moralistes catholiques?
Méthode naturelle. Il n'y a pas grand-chose de naturel dans tout, dans tout ce qu'on fait en matière de sexualité actuellement. Moi, je sais qu'actuellement, il y a une méthode qui suscite énormément d'intérêt, qui est la méthode Billings. Bon, la méthode Billings, quand on la lit au pied de la lettre et quand on l'applique au pied de la lettre, elle a une latence d'abstinence que moi, je trouve scandaleuse. Ça ne m'intéresse pas, moi, de pas avoir de sexualité ou de la contraindre à ce point-là. Je demande des moments du corps où la femme puisse se retirer. Et je demande des moments où la fécondité soit reconnue comme telle. Et simplement ça. Et quand on dit, par exemple, le moment de la fécondité, on peut choisir d'avoir un enfant ou de ne pas en avoir. On peut choisir de ne pas avoir de relation à ce moment-là. Ou on peut choisir de mettre un spermicide ou d'un diaphragme et d'en avoir quand même. On peut aussi choisir le risque de faire comme si tout ça on l'ignorait. C'est-à-dire qu'on vit avec un risque. On n'est pas à la sécurité sociale en permanence. De la naissance à la mort, il y a un moment donné, il faut risquer. Après tout, qu'est-ce qu'il y a au bout d'une relation sexuelle quand il n'y a jamais l'espoir d'un enfant, sauf dans sa programmation? C'est la mort, carrément pour moi, la mort.
Mais enfin, beaucoup
il
de
y a
gens.
Pas de risque.
Oui, vous parlez de risque précisément. Précisément, le grand argument de ceux qui ont défendu la pilule anticonceptionnelle, ou en fait tous les moyens chimiques ou mécaniques de contraception, c'était de dire justement on va éliminer les risques. Et à l'opposé, on disait le grand danger, c'est l'avortement. Alors si vous êtes contre la pilule, si vous êtes contre le stérilet, c'est donc que vous favorisez l'avortement. Qu'est-ce que vous répondez à ça?
Moi, je crois qu'il y a une grande différence entre les méthodes dont on disposait autrefois et les méthodes dont on dispose aujourd'hui. Quand la pilule est sortie en 1956, on n'avait guère que la méthode de Gineau, qui est une méthode mécaniste. Maintenant, il y a d'autres méthodes. Il y a notamment la méthode Billings, à laquelle je faisais allusion tout à l'heure, qui est un énorme progrès. Mais ces méthodes-là, elles demandent qu'on se connaisse. On avale une pilule et on pense à autre chose. On pose un stérilet, on le laisse là pour 6 mois. Ça, c'est pas connaître son corps. Et dès qu'on fait l'interruption de stérilet, l'interruption de pilule, les femmes se retrouvent mais désarmées comme des petites filles. Et c'est dans les fenêtres thérapeutiques, comme nous on dit ça en France. Il y a des fenêtres thérapeutiques. Certains médecins s'obstinent à faire en sorte que les femmes s'arrêtent à certains moments de prendre la pilule. Et bien, la plupart des avortements proviennent des fenêtres thérapeutiques. 30 à 40% des avortements proviennent de ça. Ça dit simplement une chose, c'est que les femmes, une fois qu'elles n'ont plus cette espèce d'accès magique à la sexualité et à la non-fécondité, sont infoutues de gouverner leur propre corps. Alors que celles qui utilisent la méthode Billings, elles sont obligées de s'introspecter, de s'inspecter pour savoir si en quel état elles sont du moi, selon la conformation de leur utérus, selon la qualité de leur glaire, selon la forme même de leur sein. Ça, faut se connaître, ça, faut regarder, ça, faut prendre du temps. Mais on veut pas.
Mais c'est du narcissisme.
Il faut être un minimum narcissique, il faut s'aimer. Qui vous aimera?
En fait, le discours que vous tenez sur la sexualité, sur la contraception, sur l'avortement, etc., sur quelle valeur repose-t-il?
Moi, je appartiens à une génération, j'ai plus de 30 ans. Bon, j'ai été élevée dans la religion catholique. J'ai rencontré mes 68 en chemin. J'ai fait un bon bout de chemin avec les marxistes et les maos spontanéistes. Et puis, à un moment donné, j'ai dû ouvrir les yeux. Je veux dire, d'un côté, il y avait l'Amérique du Sud, et de l'autre, il y avait les pays de l'Est, et toutes mes valeurs ne fonctionnaient pas. Donc, j'étais renvoyée à mes propres valeurs. Il a bien fallu que je les construise. Il se trouve que dans mes valeurs, il y a le respect de la personne. Et que si je perçois un tant soit peu, et je l'ai perçu au niveau de la contraception, de la maternité et de la menstruation, si je perçois un tant soit peu qu'il y a vraiment blessure de la personne, qu'on la contraint à agir massivement de la même façon, ben moi j'ai envie de dépasser et de proposer des choses qui blessent un peu, qui accrochent le discours dominant. Et ces valeurs, les valeurs que j'ai, ma foi, elles sont guidées un peu par ça, le respect de la personne, l'épanouissement d'une certaine liberté, mais reconnaître la liberté où elle se trouve. Quand on a dit liberté par la pilule, liberté par l'avortement, liberté par le stérilet, je dis très bien, ça c'est un objectif à un moment donné. La pilule, on peut faire sa promotion à un moment donné. Le stérilet aussi, il se peut que l'avortement, à un moment donné, puisse casser un discours dominant et trop sûr de lui. Mais il ne faut pas prendre... Il ne faut pas prendre ces moyens, ces moments d'une lutte pour l'épanouissement, pour la fin. C'est ce qui est apparu à différentes reprises. La fin, c'est vraiment la liberté de la personne. Et on ne peut pas dire que c'est être libre que d'être contraint par un produit chimique 30 jours sur 30 et d'être obligé de passer par des laboratoires et par des toubibs et par un juge pour obtenir tout ça. Et, je ne sais pas, moi... À une époque, je partais en week-end et je me disais, j'ai ma brosse à dents, j'ai ma boîte de pilules, tout va bien. Et un jour, je me suis dit, c'est insupportable, ça. J'ai pas envie de ça. J'ai envie de connaître mon corps et de savoir à quel moment je suis comme ça. Je me retire, j'avance, je risque pas. J'ai pas besoin d'une pilule comme bouclier. Et je dis même dans mon bouquin, à un moment donné, que j'ai eu le sentiment que la pilule était comme un bouclier magique. Et que malgré le fait que j'ai 26 ou 27 ans quand je l'ai abandonnée, ben j'étais vierge. J'étais vierge, vierge de risque. Toute relation avec un homme ne pouvait pas être poussée jusqu'à un aboutissement possible qui était l'enfant. Je l'avais interdit.
Oui. Et l'enfant non voulu, la grossesse non désirée.
Moi, c'est odieux, ça. Il faut être une femme pour savoir que c'est odieux, ça. Porter un enfant dont on ne veut pas, c'est quelque chose... Imaginez-vous. que vous vivez avec un intrus, un ennemi. Je ne suis pas pour l'avortement. Mais je pense qu'il y a certains moments de la vie où on fait des conneries énormes, des bêtises, et que si on doit les payer toute sa vie, ben c'est pas la peine d'être au XXe siècle.
Mais justement, est-ce qu'il ne vaut pas mieux à ce moment-là prendre la pilule, par exemple, plutôt que de risquer ce risque épouvantable
de... L'avortement, oui. C'est toujours un moment de la vie où on désire la vie. Il y a quelque chose qui se passe et quelque chose qu'on ne résout pas. Alors la pilule ne l'aurait pas résolu pour autant.
Et le droit du fœtus à la vie ?
Ça, c'est un énorme problème. Je suis d'accord que là, je n'ai pas de réponse, moi. Je suis pour les vivants. Et la femme qui a 30 ans et qui a un enfant qu'elle ne désire pas, elle est quand même venue au monde. Et elle va pas obérer 20 ans, 25 ans de sa vie pour quelqu'un qui n'est pas encore venu. Bon, en dehors de ça, moi j'estime qu'il y a aussi des limites à l'avortement, qu'on peut imaginer qu'un fœtus de 5 mois, ce n'est pas un fœtus. C'est déjà un enfant à naître. Bon. Mais c'est très... C'est pas juste non plus de dire ça. La vérité, c'est que l'avortement, c'est la non-venue d'un enfant au monde, et que c'est pas seulement la femme qui le tue, c'est aussi la société.
Oui. Votre discours, d'ailleurs, est un discours contre une certaine... unisexualité que la société industrielle Absolument. Imposerait actuellement à la femme.
Absolument. Et la femme, pour courir après le discours de la société industrielle, se prend pour un mec. Et en fait, elle n'est qu'un castrat. Si elle n'a plus son pouvoir de fécondité, parce qu'on l'obère d'une façon... C'est une façon réversible, la pilule stérilet. Mais c'est toujours reconduit. Des femmes, aujourd'hui, ont été sous pilule depuis 20 ans. Et elles n'ont pas fait d'enfants. Elles n'en feront peut-être jamais. Parce que précisément, elles n'ont jamais voulu risquer. Toujours, elles ont pesé le coup, le oui, le non, et puis la programmation n'est pas venue, parce qu'il n'y a jamais d'optimum. Il y a toujours le Jules qui n'est pas tout à fait ce qu'on voudrait à ce moment-là, le boulot qui n'est pas tout à fait assez payé, ou pas, qui ne donne pas assez de liberté, la maison qui n'est pas ce qu'on voudrait. On n'a jamais tout. C'est pour ça que la vie par surprise, c'est aussi quelque chose qui est très bien.
Et votre discours est aussi un discours, finalement, contre une domination masculine qui se perpétuerait à travers cette ignorance, ce silence, etc. Et je pense qu'il y a quand même chez vous donc une agressivité assez forte à l'égard du modèle masculin.
Le modèle masculin, en faisant ce livre, je me suis rendu compte pourquoi on occultait les règles. Il n'y a pas de référent masculin. Ça ne renvoie à aucun référent masculin, les règles. Et quand il n'y a pas de référent masculin, eh ben, il n'y a pas de discours. C'est aussi simple que ça.
Les règles,
Donc produire un discours sur les règles, c'est produire un discours féminin.
Ouais.
C'est forcément produire un discours agressif. Parce qu'il n'existe pas.
Mais votre discours a été bien ou mal reçu par les femmes?
Ah, alors là, c'est 50-50. 50-50. Et j'ai trouvé des alliés inattendus chez les jeunes filles. Qui ne veulent pas entrer dans la pilule, l'ère de la pilule ne les intéresse pas pour certaines. Alors il y en a d'autres qui, je ne sais pas, moi, c'est les études, le Walkman, la vie dans les petits casiers, etc. Bon, ben, celles-là sont tout à fait tournées vers la pilule et vers le stérilet, parce que c'est un avenir bétonné, hein, c'est solide, on sait qu'on peut compter dessus. Et puis il y en a toute une autre partie qui disent, ben non, nous, on n'a pas envie d'être soumise à un médicament et on n'a surtout pas envie de ne pas voir fonctionner notre corps. Et bon, alors les jeunes ont trouvé que ce discours, ça les intéressait, mais elles sont un peu angoissées parce qu'elles disent, mais alors quoi? Qu'est-ce que tu nous proposes? Et je dis, moi, je vous propose ce que je fais. C'est-à-dire, je me suis astreinte pendant 2 ans à prendre ma température. J'ai découvert cette histoire de glaire cervicale, cette histoire de conformation de l'utérus. Et puis, si j'ai envie de baiser à un moment donné où c'est l'ovulation, eh ben, je mets un spermicide. Et je ne suis pas fière de moi parce que je me dis, tiens, cette fois, je me suis laissée finalement emporter. J'aurais peut-être dû faire autrement. Bon, mais tant pis, c'est pas parfait, je suis pas parfaite et je fais ce que je peux. Mais j'ai pas de sécurité sociale à proposer. J'ai une aventure individuelle. Si elles prennent la pilule à un moment de leur vie où elles ne peuvent pas faire autrement, je les condamne de rien. Ça va les faire progresser jusqu'à un certain point. Mais ce qu'on a dit, c'était que c'était un progrès, c'était une libération. Une femme libérée devait être contraceptée de façon que moi j'appelle totalitaire. Je dis non, il y a d'autres voies, et ça, c'est pas un progrès, c'est une modalité. C'est exactement comme ce qu'on disait tout à l'heure sur l'avortement, quand les militants pour l'avortement, brusquement, se sont mis à défiler dans les rues en disant « Vive l'avortement !» ça va pas. On peut pas dire vive la mort. C'est pas possible. Elles avaient brusquement perdu de vue le premier objectif, qui était une plus grande liberté, pour un autre objectif qui était un petit créneau minuscule et idéologique qui s'appelait avortement. Ça n'avait plus de sens. Ils avaient perdu de vue ce qui était derrière, c'est-à-dire les gens.
Oui. Est-ce que vous avez un enfant, vous-même?
Oui, j'ai une fille.
Vous avez décidé un jour d'avoir une fille?
Non, j'ai pas décidé. J'ai voulu en avoir une, ça faisait longtemps, et j'ai interrompu la pilule, parce que sinon, il n'y avait pas de raison que j'en aie. J'étais ambivalente. Bien sûr, il y avait des raisons pour en avoir, bien sûr, il y avait des raisons pour pas en avoir. Un jour, je me suis fatiguée de tout ça, et j'ai dit, il y en aura une et on verra.
Qu'est-ce que ça représente pour vous, le fait d'être mère?
Oh, ça représente plein de choses. Ça représente un retour à l'enfance, d'abord. Ça représente un rapport au pouvoir. Ça représente
Est-ce que c'est un handicap?
Oui. Oui et non. C'est un handicap parce qu'on ne va pas et on ne vient pas aussi librement. Il faut compter qu'il y a un enfant là, que telle situation peut le blesser, que tel autre peut le stimuler, qu'il est à l'école à tel endroit et qu'on a envie d'être à 100 bornes de là, que plein de choses. Mais en même temps, un enfant, ça vous fait avoir de la mémoire. Et puis ça réactive des situations. Par exemple, une ou deux fois, je me suis vue faire des gestes répressifs que faisait ma mère sur moi. Et au moment où je les ai faits, j'ai vu la scène qui se rejouait. Je me suis dit, oh, mais ça ne va pas, ce pouvoir que tu exerces là. Tu ne vas pas le transmettre de génération en génération. Et ça, c'est toujours une interrogation sur le pouvoir, l'enfant. On prend le pouvoir sur lui, et à ce moment-là, on ne voudra plus jamais le donner. Ou alors, on essaye de libérer deux territoires. Et ce n'est pas lui qui doit prendre le pouvoir. Mais vous non plus.
C'est un garçon ou une fille?
Une petite fille. Heureusement.
Alors, oui, mais justement.
Heureusement, on va castrer proprement.
Oui,
c'est un garçon.
Justement, heureusement. Alors, qu'est-ce que vous allez dire, vous, par rapport aux règles, par rapport à la fécondité, par rapport à la maternité?
Qu'est-ce que je vais lui dire?
Oui. Quelle va être la relation que vous allez établir avec cette fille qui va devenir tout à coup une adulte, elle aussi, qui va connaître ses premières règles? Quelle va être la relation?
Ce que j'explique dans mon livre, c'est que précisément, on ne dit pas, on montre. Ce qu'il y a, c'est que quand, par exemple, on parle d'information sexuelle, c'est un discours. On va dire, le petit garçon est fait comme ça, le monsieur est fait comme ça, la dame est fait comme ça, les enfants les fera comme ça. Et puis c'est un discours, les enfants l'oublient aussitôt. Parce que tout ça, c'est du symbolique complet. Ils vont repartir sur les histoires du baiser sur la bouche qui va donner un enfant, parce que c'est, pour eux, c'est ça la sexualité enfantine. Ils vont partir sur n'importe quoi. L'information, ça ne vaut rien. C'est, si on parle des règles et puis qu'après on s'enferme dans la salle de bain et qu'on montre jamais un linge souillé, c'est pas qu'on veut le montrer, c'est que si ça se présente, faut pas le cacher. C'est ça que je veux dire. Et si s'il y a cette situation à ce moment-là qu'on se trouve un peu fatigué, etc., bon, que ce soit pas un drame, que ce soit pas le drame de la fatigue et de la charge de la femme, que l'enfant marche d'une façon transparente dans cette situation. C'est pas de l'exhibitionnisme, sûrement pas, parce que ça, l'enfant le supporte pas. Et puis Il y a une pudeur apprise, et puis il y a une pudeur... je ne sais pas si elle est apprise, c'est là. Je crois qu'elle est... Je ne sais pas. Les chats, ils ont une forme de pudeur. Hein. Je ne sais pas, il y a des choses qu'on fait, tout... j'aime pas dire naturellement, mais je crois qu'on les fait, ça vient de profond et de loin. Donc, je ne veux pas montrer ostensiblement des choses que l'enfant ne voudrait pas voir et que je ne voudrais pas montrer. Je veux fonctionner d'une façon suffisamment transparente pour que l'enfant y ait accès à tous les moments. Et c'est très différent d'un discours, ça. Si on montre, ça va. Si on dit, ça va pas.
Et la relation à l'autre sexe?
De cet enfant vers l'autre sexe?
Non.
Ou de moi vers l'autre sexe?
Oui.
Ouverture.
Des femmes,
ouverture.
Des femmes. Des femmes, ouverture.
L'ouverture complète.
Est-ce que pour vous, le mâle est encore un oppresseur? Comme il l'est pour beaucoup de femmes, tout au moins dans le discours.
C'est un oppressé d'abord. L'oppresseur est un oppressé d'abord. C'est ce que j'essaye de lui montrer dans ce bouquin.
En d'autres termes, la libération de la femme doit se faire en même temps qu'une libération de l'homme.
Elle s'appuie, elle va pas l'un sans l'autre. Je veux dire qu'on est arrivé à certaines extrémités dans le mouvement féministe qui sont, on va faire des enfants tout seul. Quelle horreur de prendre un beau mec dans la rue, de dire, tiens, celui-là, comme géniteur, il fait pas mal, de se mettre dans son lit, de faire un enfant et puis de le renvoyer à quoi? Comment il va avoir un enfant, lui, si tout le monde fait comme ça? Je crois que le besoin d'enfant, il existe chez les hommes d'une autre façon. Donc cette confiscation-là, elle est horrible.
Mais ce besoin d'enfant, mais précisément, il y a de plus en plus de couples actuellement qui disent ne plus avoir besoin d'enfant, qui ne veulent plus avoir d'enfant. J'ai autour de moi des amis qui forment des couples occasionnels, provisoires, révocables, comme on veut, mais qui ont décidé qu'ils n'auraient pas d'enfant. Parce que, disent-ils, avoir un enfant dans la société d'aujourd'hui, c'est le condamner au pire.
bien sûr. On disait ça en l'an 1000 aussi. J'ai pas de réponse à ça. Moi, c'est vrai que j'étais très ambivalente dans mon désir d'enfant, mais que je suis contente, comme tout, d'avoir mis un enfant au monde. Ça, c'est mon histoire. Les gens sont dans leur histoire. J'ai pas d'explication. Je crois, moi, que ne pas vouloir faire d'enfant en disant « Demain, ça sera trop moche », pourquoi ils se suicident pas aujourd'hui?
Mais en d'autres termes, est-ce que c'est pas toute une révolution sociale, ou si vous voulez, d'une façon plus directe? Au fond, à un moment donné, vous avez eu une certaine utopie, une certaine ambition, un certain idéal. Qu'est-ce que vous avez laissé? Qu'est-ce que vous avez gardé? Qu'est-ce que vous maintenez de cet idéal-là? Qu'est-ce que c'est pour vous, là, finalement, une vie humaine, une relation d'homme?
Eh bien, j'étais complètement dans la superstructure. Bon, le marxisme, c'est d'abord une explication globale du monde. Bon. Alors, une fois que cette explication globale du monde ne fonctionne plus, eh bien, si on dit y a une société avec 5 stades, y avait telle époque, maintenant on entre dans telle époque, on entrera dans telle époque, et ça ne fonctionne pas. Bon, alors on est bien obligé de se dire, si ça ne fonctionne pas dans la superstructure, il faut que je descende. Et s'il faut que je descende, c'est ma vie privée qu'il faut que je transforme. Parce que ce qui est extraordinaire dans la période militante, c'est que oubli total de l'individu, mais oubli total, quand on voit la vie des militants, et encore aujourd'hui, moi je le vois autour de moi encore, c'est la réunion tous les soirs, c'est tout est investi en temps social. Le temps individuel ne compte plus pour rien. On vit pour demain et pour les autres. Ben non, ça non. Si je vis pour moi, et si j'arrive à avoir une espèce de cohérence, enfin, en tout cas, une recherche de cohérence, j'influence forcément autour de moi. C'est comme si j'émettais des ondes, et comme si je mets ma vie, je mets mes idées en pratique, mais pas au niveau de la superstructure. Je ne dis pas que je vais transformer le monde, je dis que j'essaye de me transformer. Et c'est très différent.
Et de vous transformer en prenant des risques à partir de ce que vous êtes, vous, profondément.
Ah, absolument.
Et qui suppose une connaissance de vous, extrêmement intime.
Voilà. Non, mais absolument, c'est ça. Et puis bon, mais sans doute il y a des régressions, sans doute il y a des chutes, sans doute il y a des erreurs et tout, mais il y a une recherche de valeur qui me soit personnelle.
L'autre, qu'est-ce qu'il peut connaître de vous à ce moment-là?
Ce qu'il veut. Il n'y a qu'à demander.
Il n'y a qu'à demander.
Ouais.
Donc aussi, de ce côté-là, les risques à prendre.
Ah, transparence, alors vraiment. Ça, c'est... Je le dis et je le fais. Transparence.
Edmond Morin, je vous remercie.
Pour mieux comprendre la pensée d'Edmond Morin, il faudrait lire « La rouge différence ou les rythmes de la femme » paru aux éditions du Seuil. Edmond Morin poursuit son combat en dehors de toute partisanerie, religieuse ou non.